Arnaud Drouget, bonjour.
Bonjour Didier.
On va parler avec vous de la partie obligation. C'est vrai qu'on parle souvent sur les marchés des actions, du CAC 40, on parle peu des obligations. Pourtant, il y a peut-être dans ce domaine-là, pour l'investisseur qui s'intéresse à la fois à son portefeuille et comment le constituer, il y a peut-être des opérations intéressantes à faire. Comment on aborde ce marché des obligations? Il faut rappeler qu'une obligation, ce n'est pas une action, hein.
Alors, on l'aborde d'une manière différente déjà de ce qu'on faisait il y a quelques années. Il y a quelques années, une obligation, c'était quelque chose qu'on mettait dans le fond d'un portefeuille. On touchait ses 4% ou ses 5%, ou quelquefois ses 8% tous les ans, et puis on attendait le remboursement. Aujourd'hui, c'est un produit qui est beaucoup plus risqué qu'il ne l'était il y a 10 ou 15 ans. C'est même le cas pour les obligations d'État qui étaient considérées comme le zéro risque, si l'on peut dire. Il y a un deuxième facteur aggravant pour le fait qu'on ne peut pas travailler sur les obligations sans se pencher vraiment bien dessus, c'est qu'aujourd'hui, si vous achetez de l'emprunt d'État à 10 ans français, vous allez avoir du 2,70, du 2,80. 10 ans allemand, c'est du 1,50, je crois, ce matin. Il faut imaginer ce que ça veut dire. 1,5% ou 2,5% de rendement sur 10 ans, pendant 10 ans, si jamais l'inflation revient ou les taux remontent, vous allez avoir très très mal à votre portefeuille. En tout cas, vous allez pouvoir garder votre obligation jusqu'à la fin en espérant que l'émetteur la remboursera. Mais ce n'est pas ces rendements-là qui justifient d'investir en obligation. En revanche, il y a aujourd'hui un intérêt marqué pour les obligations émises par des entreprises privées dont la signature est souvent équivalente, voire meilleure que celle de l'État dans lequel ils ont leur siège social. Mais pour des raisons historiques et de construction, les agences de notation ne peuvent pas donner à une entreprise une note meilleure que l'état de son domicile, du domicile de son siège social. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Air Liquide, Total ou autres ne peuvent pas avoir une note meilleure que la note de la France. Bon. Dans le cas de la France, ce n'est pas absolument choquant, mais ça peut l'être dans le cas de certains pays, par exemple méditerranéens, Espagne ou Italie, où certaines des entreprises locales qui sont cotées, qui ont émis des obligations, sont beaucoup plus, toutes choses égales, solides que l'État auquel elles appartiennent.
Alors on sait comment on achète une action, hein, on va dire on achète à la cour donnée, à 30 euros, et on va essayer de la revendre, voilà, à 60, allez, disons à 60, on sera content, même à 45, on sera
content. Je vais vous
content.
Confier mon portefeuille.
L'obligation, on l'achète comment? Il y a des émissions, on voit des sociétés qui font des émissions, qui annoncent des émissions d'obligations, avec des échéances, avec des durées effectivement plus ou moins longues. Comment on achète une obligation?
Alors, une obligation, ça se caractérise par quatre choses. Un émetteur, c'est-à-dire celui qui va recevoir votre argent et qui doit vous rembourser, soit une entreprise, soit une banque, qui est également une entreprise, mais les émissions bancaires sont assez nombreuses et à regarder de très près, bon, soit un État bien sûr, soit une collectivité publique. Ça, c'est l'émetteur. Une durée de vie, ce qu'on appelle une maturité, c'est du 5 ans, c'est du 10 ans, c'est du 60 ans même. Aux États-Unis, on a fait 100 ans avec Kodak. C'est un nominal. L'obligation, le ticket, si vous voulez, fait 1 000 euros ou 1 euro ou 5 000 euros ou 50 000 euros. C'est de plus en plus des émissions de 50 000 euros parce que pour l'émetteur, c'est commode à gérer et pour le back-office, ça coûte moins cher. Mais pour le particulier, ça l'élimine complètement parce que acheter deux titres d'une émission à 50 000 euros, ça fait quand même… Ou alors, il faut avoir un très gros portefeuille. Donc ça, c'est le nominal et il y a bien sûr le taux d'intérêt. Le taux facial qui est généralement, bon, il y a des taux fixes, il y a des taux variables, mais de plus en plus les émissions sont faites à taux fixe. Et aujourd'hui, par exemple, je crois que les dernières émissions privées sont faites à 3,50 sur 10 ans ou 3,60 sur 10 ans. Il y a une caractéristique d'obligation que j'aime beaucoup, qui sont les obligations convertibles. Il n'y en a pas énormément qui courent le marché français, en tout cas aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus dans les marchés étrangers. Et là, il faut vraiment être bien documenté. Mais sur le marché français, les obligations convertibles ont l'avantage de pouvoir être remboursées soit au nominal, à l'échéance, soit vous avez le porteur a le choix de les échanger contre des actions. Et sûr que si l'action monte, ça peut être très intéressant parce que vous pouvez avoir deux, voire trois fois le capital à l'échéance. Il y a une obligation convertible actuellement qui est très regardée dans le marché, qui est l'Alcatel 2015. Elle se rembourse dans un peu moins de 3 ans, puisque c'est le 1er janvier 2015. Elle a un taux facial de 5%, mais comme elle cote largement en dessous de son prix de remboursement, elle donne du 12 ou du 13% en taux de rendement d'ici à 2015. Si on croit qu'Alcatel existera toujours en 2015 et sera en mesure de rembourser sa dette, il vaut probablement mieux acheter cette obligation-là convertible que toute autre obligation d'entreprise ou même que l'action. Parce que si je vous garantissais de faire 12% sur l'action Alcatel tous les ans pendant 3 ans, je suis persuadé que je trouverais beaucoup de clients pour acheter de l'action Alcatel. Mais bon, là, il n'y a pas de garantie. Il y a un espoir qu'Alcatel existera toujours dans 3 ans. Personnellement, c'est un pari que je ferai volontiers.
Alors, les entreprises, bien sûr, elles aussi, côté émetteur, c'est ce que vous avez dit à l'instant, elles vont regarder en fonction de ce qui se passe sur le marché, l'intérêt pour elles, peut-être, de ne pas aller jusqu'à l'échéance et de racheter les obligations. Ça aussi, ça peut impacter son propre portefeuille, dans ce cas-là.
Voilà, c'est une chose qu'ont fait un certain nombre de banques, particulièrement l'année dernière, parce que leurs obligations étaient très décotées. Et pour une banque qui a émis, par exemple, 1 milliard d'obligations à 10 ans, si son obligation décote de 10% et qu'elle peut la racheter sur le marché, ça fait 100 millions d'euros de bénéfices, puisqu'elle va avoir racheté pour 900 millions, ce qui, dans son bilan, figure à son passif pour 1 milliard. Donc c'est loin d'être négligeable. C'est une technique qu'utilisent beaucoup les établissements financiers, anglo-saxons très généralement, mais français aussi, pourquoi pas. C'est plus rare pour les entreprises dans la mesure où il est assez rare, en tout cas pour les grandes entreprises, que leurs obligations décotent très significativement. Ou alors c'est parce que l'entreprise va mal et elle n'a à ce moment-là pas les moyens de racheter son papier.
Le mot de conclusion, action-obligation, là on parle des obligations. Dans un portefeuille, du coup,
dans le climat actuel, obligation me paraît être en tout cas une... J'allais dire c'est du 80-20 ou du 90-10. Je n'irai pas dans le climat actuel sur les actions pour une part significative de mon portefeuille, sauf sur des cas particuliers d'entreprises moyennes sur lesquelles on a un bon suivi ou un bon feeling. Mais je dirais que les circonstances économiques générales et la situation de l'Europe ne militent pas aujourd'hui pour un investissement massif en actions.
Merci à Anne Rouget d'avoir fait le point avec nous sur ces obligations.
Merci Didier.